Merci. D'abord, je remercie les organisatrices de me permettre de participer à ce beau colloque. Ensuite, j'ajouterai que je vais aborder le miroir dans une perspective un petit peu différente de ce qu'on a vu et écouté depuis hier, à savoir que je vais aborder le miroir comme un miroir entre deux cultures, plus précisément entre deux cultures scripturales et graphiques, la culture occidentale, la culture asiatique. Et je vais notamment aborder ce sujet à travers l'œuvre d'Henri Michaud, à travers sa peinture de l'écriture, ou ce que je nomme autrement, sa poésie graphique. Alors pourquoi est-ce que je convoque ces différents termes, peinture, graphie, écriture, poésie? Tout simplement parce que sa recherche du langage, ses recherches pour approfondir le langage, ou sa recherche des langages, emprunte plusieurs voies, la graphie, l'écriture, mais aussi la peinture, dans un même geste, un geste de peinture de l'écriture ou d'un art graphique qui aurait une connotation, une valeur poétique, à laquelle il attribue une valeur poétique. Et en cela, il se rapproche notamment de la démarche de la peinture lettrée chinoise, autrement dit la calligraphie, qui est à la fois un art graphique, une écriture poétique, mais une peinture aussi qui relève d'un geste pictural. Il y a aussi une filiation avec des explorations de fusion des différents arts des avant-gardes du début du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la filiation asiatique. Alors, vous voyez que je vous ai présenté deux illustrations. D'une part, une page d'idéogramme qui est repris dans le recueil Idéogramme en Chine de Michaud, mais ce sont des idéogrammes réels, chinois, mais en écriture chinoise ancienne, donc qui ne correspondent pas aux idéogrammes actuels. À côté, les signes inventés de Michaud, parce que ce sont bien des signes inventés, qui ont une allure d'idéogramme, mais qui demeurent des idéogrammes abstraits, parce qu'ils n'ont aucune correspondance et ne constituent pas un système. Alors j'aimerais aussi explorer aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de l'idéogramme, de ce reflet asiatique dans les signes inventés de Michaud, et jusqu'à quel point ce sont ou non des idéogrammes. La traversée du langage qu'expérimente le peintre-poète Henri Michaud, sa pratique d'une peinture de l'écriture et sa quête d'une poésie graphique naissent du constat affligeant de l'impuissance des langues occidentales à exprimer visuellement l'essence des êtres et des choses, ce qui motive un rejet du système phonographique. Il évoque, je cite, « une langue d'application, de direction, organisatrice, destinée à être une administration, où toute conscience va devoir entrer. Maîtresse, la langue couvrira tous les besoins. Ainsi font les tyrannies. » Fin de citation. Selon Michaud, c'est la commodité qui, je cite, accueillir les langues à écriture consonantique ou alphabétique plutôt que celles à caractère pictographique et idéographique. Fin de citation. L'incapacité de l'écriture alphabétique à suggérer sa tendance à figer par une description particulièrement réductrice et normalisatrice suscite et avive le fantasme de Michaud d'une langue directe, d'une écriture immédiate. Les premières tentatives de fonder un langage relève d'une expérimentation alphabétique. Michaud invente son premier alphabet en 1925, geste réitéré en 1927 par la création d'un autre alphabet intitulé Narration. Le rêve d'une langue qui relie les êtres, quelle que soit leur espèce, plantes, animaux, êtres humains, est incarné graphiquement par la forme que revêt le signe alphabétique inventé, c'est-à-dire qu'il ressemble dans ces alphabets, ces premières tentatives d'alphabet inventés, à un pictogramme, mais sans être totalement un pictogramme. C'est toute l'ambiguïté de la recherche sémiotique de Michaud. Les éléments constitutifs de ces premiers alphabets ont ce caractère pictographique évident, mais évoluent ensuite plutôt vers une tendance idéographique. C'est la découverte de l'Asie, notamment de l'écriture et de la peinture chinoise, qui transfigure substantiellement la pratique de Michaud et représente une expérience fondatrice dont les résurgences marquent les recueils de signes graphiques inventés. En 1936, fasciné par la calligraphie chinoise et le potentiel visuel et expressif de l'idéographie, Michaud invente des signes imaginaires qui possèdent quelques caractéristiques morphologiques des idéogrammes chinois, qu'il peint spontanément à l'encre de Chine, recherche à retrouver la posture et le geste du calligraphe chinois. Il confère à cette pseudo-idéographie une dimension poétique. C'est pourquoi elle figure toujours en marge ou à l'intérieur de ses textes poétiques. Michaud tente de retrouver l'esprit et le geste du peintre lettré chinois dans l'acte calligraphique. Il recherche également l'expressivité visuelle et la capacité plastique, selon lui, de la graphie asiatique. Dès lors, la peinture de l'écriture à laquelle il se livre opère en miroir de la culture scripturale chinoise. Ces expérimentations picturales et graphiques constituent autant de reflets multiples et uniques de l'idéographie chinoise. Néanmoins, ces reflets asiatiques dans les signes graphiques que Michaud invente ne se caractérisent pas par une relation mimétique univoque. En effet, si la dimension visuelle et iconique de l'écriture chinoise veut être transférée et reproduite dans la pseudo-idéographie de Michaud, ces nouveaux signes ne sont évidemment pas le parfait reflet de l'idéographie chinoise. Le miroir de l'écriture fonctionne ici comme un miroir déformant, un miroir courbe ou convexe, dans le sens où les idéogrammes imaginaires de Michaud ressemblent aux idéogrammes chinois, tout en différant par bien des aspects de ces derniers. L'identité visuelle de l'idéographie est questionnée, explorée, transformée, subvertie, déformée, pour recomposer une image de l'écriture, personnelle, subjective, pour créer une graphie inédite. C'est tout le projet de Michaud. La filiation asiatique est donc assumée et revendiquée, exploitée dans la forme des signes, mais récusée implicitement dans la fonction structurante et la qualité structurée de l'idéographie en tant qu'écriture opérante, fonctionnelle, réelle, seule que n'atteignent jamais les idéogrammes imaginaires et inventés d'Henri Michaud. Car cela ne permettrait pas complètement la pure spontanéité. Il a un rêve de spontanéité dans l'écriture, une sorte de communication immédiate d'écriture qui n'atteindrait même pas le stade d'une écriture, plutôt une pré-écriture, qui serait primitive, qui aurait quelque chose de sauvage, qui pourrait exprimer l'être, qui aurait une dimension ontologique. Donc cette utopie d'immédiatité de la communication graphique qu'il recherche n'est pas permise dans l'idée de normaliser et de former un système graphique opérationnel. L'objet de cette communication sera donc de mettre au jour comment la figure du miroir opère à différents niveaux, à savoir isotopique, poétique et surtout sémiotique, dans l'élaboration de la peinture-poésie d'inspiration chinoise d'Henri Michaud. Dans les recueils par des traits et par la voix des rythmes, qui sont des recueils de signes inventés qui ont une prose poétique en marge ou pas, parce que d'ailleurs, non, par la voix des rythmes, on n'a que ces signes, et le seul texte est le paratexte, c'est-à-dire le titre et les numéros de page. Donc dans ces recueils, la pseudo-idéographie de Michaud se constitue comme un reflet de l'idéographie chinoise, mais avec quelques variations. Les idéogrammes imaginaires se présentent comme un alter ego de l'écriture chinoise. Dans le recueil « Idéogrammes en Chine », donc là j'en ai, on voit les pages, à la fois le texte et de l'autre on a des reproductions de calligraphie chinoise ou ancienne ou moderne. Alors il y en a certaines qui datent du 2e siècle après Jésus-Christ et puis on en a des beaucoup plus récentes. Il introduit même un idéogramme japonais à la fin du texte, donc il y a toute une variation. Il y a des sinologues qui ont étudié un petit peu les illustrations qu'il a introduites dans ce recueil et apparemment il est quand même assez allé chercher assez loin. Et il commente à la fois il commente des éléments historiques véridiques sur l'histoire de l'écriture chinoise et en même temps il exprime une conception poétique de sa vision de l'idéographie. Donc dans ce recueil, Michaud développe sa philosophie de l'écriture, faisant de ce texte un poème-essai dans lequel les idéogrammes sont organisés selon une structure en miroir de page en page. Le texte fait face aux idéogrammes. Le texte poétique, quant à lui, file la métaphore du miroir en évoquant la vertu réflexive de l'eau et la relation de la nature au poème dans la calligraphie asiatique, notamment de l'eau. Une analogie est esquissée dans Idéogramme en Chine entre, d'une part, ce qui fonde la pratique pseudo-idéographique de Michaud, c'est-à-dire un signe inventif, surtout primitif, qui s'inscrit en prolongement et comme reflet de la nature, et d'autre part, l'histoire des formes et du signe idéographique en Chine depuis les prémices de l'écriture. Michaud souligne et commente la filiation du signe idéogrammatique à la nature en Chine ancienne. Je le cite. « Ce qui paraissant gribouillis fut comparé à des passages d'insectes, à d'inconsistantes traces de pattes d'oiseaux dans le sable, continue de porter, inchangée, toujours lisible, compréhensible, efficace, la langue chinoise, la plus vieille langue vivante du monde. » Il y eut pourtant une époque où les signes étaient encore parlants, ou presque, allusifs déjà, montrant plutôt que chose, corps ou matière, montrant des groupes, des ensembles, exposant des situations. Réduits, déformés comme ils sont, ces caractères illisibles, il parle des caractères anciens, ces caractères illisibles à des centaines de millions de Chinois ne leur étaient pourtant pas lettres mortes. Tenus hors du cercle des lettrés, les paysans et les vrais les regardaient sans les comprendre. Mais non sans ressentir que c'était bien de chez eux, ces lestes signes, parents de toits incurvés, des dragons et des personnages de théâtre. Des dessins de nuages aussi, et généralement des paysages de branches fleuries et de feuilles de bambou qu'ils avaient vus en images et appréciés. Si éloigné que soit de l'ancien le caractère nouveau, il peut réanimer l'objet par le nom. Il y est poussé. Son graphisme tente. Sans autre savoir, il suffirait, grâce à ses subtils traits nuancés. Fin de citation. Le signe idéogrammatique ancien se serait constitué comme un miroir de la nature et du monde. De même, le geste calligraphique et l'art de l'écriture en Chine sont intimement liés au recueillement devant le paysage. Cette métaphore de l'écriture comme un miroir de la nature est prolongée dans la convocation de l'isotopie aquatique dans le texte d'idéogramme en Chine. Je cite. D'une certaine façon semblable à l'eau, à ce qu'elle a de plus fort et de plus léger, de moins perceptible, comme sont ses rides, rides profondes, rides fines, rides de l'eau qui coule, ou qui est tombée en cascade et qui revient en gargouillant à la surface, qui toujours furent un sujet d'étude en Chine. Image du détachement, l'eau qui ne s'attache pas, toujours prête à instantanément repartir. Eau, vide de forme, voix par l'écriture. Fin de citation. Le miroir est double. L'écriture mire la nature dans ses formes, emporte les traces, mais tout autant la nature, l'élément aquatique en l'occurrence, guide, favorise et élabore la calligraphie. Les images poétiques du paysage, de l'eau, de l'arbre, de la source, de la roche, sont associées à l'écriture idéogrammatique et à la calligraphie, afin de mettre au jour que le signe idéographique est originellement un miroir de la nature. Et c'est précisément ce reflet primitif, primordial, naturel, que Michaud cherche et recrée dans ses idéogrammes imaginaires qui se forgent morphologiquement parlant eux-mêmes en miroir de l'écriture chinoise. La figure du miroir dans l'œuvre poétique-graphique de Michaud procède selon des jeux de reflets, de semblables et de dissemblables complexes qui s'enchevêtrent. Les miroirs de la nature et de l'écriture chinoise initient la création poétique et sémiotique dans Michaud. Dès lors, comment le miroir des signes idéographiques opère-t-il dans les inventions sémiotiques de Michaud ? Dans Idéogramme en Chine, ce dernier reprend des idéogrammes anciens, comme je le mentionnais tout à l'heure, en marge de la prose poétique pour faire un hommage à la calligraphie et à l'écriture chinoise. Il commente le passage d'un état pictographique du signe à un état logographique dans l'idéogramme chinois, autrement dit l'évolution d'une écriture concrète à une écriture abstraite. Je cite. Le plaisir d'abstraire l'a emporté. Le pinceau permit le pas, le papier facilita le passage. Le réel originel, le concret et les signes qui en étaient proches, on pouvait dès lors commandément s'en abstraire. Abstraire, aller vite, vite par brusque trait glissant sans résistance sur le papier, permettant une autre façon d'être chinois. S'abstraire l'avait emporté. Être mandarin l'avait emporté. Emporté par l'entraînante impudence de la recherche. Les inventeurs, ceux d'un deuxième temps, apprirent à détacher le signe de son modèle, à tâtons le déformant, sans oser encore carrément couper ce qui lie la forme à l'être, le cordon ombilical de la ressemblance. Et ainsi se détachèrent eux-mêmes, ayant rejeté le sacré de la première relation écrit-objet. Disparu, les caractères sentis, penchés sur la réalité. Fin de citation. François Cheng écrit que le concept de l'écriture chinoise fonctionne, comme je cite, une sorte d'hallucination européenne, mais Derrida lui-même en est victime. Les hallucinés croient voir une écriture dont les rapports avec la langue parlée sont tout à fait différents de ceux qui sont typiques dans le cas des langues européennes. Ils sont fascinés à la fois par l'écart qui existe en chinois entre le signifiant écrit et sa prononciation, et par le rapport visible, dans certains cas, au moins, qui relie le signifiant à ce qu'il signifie. Fin de citation. Bien que Michaud manifeste une connaissance intime du système idéographique dans l'idéogramme en Chine, dans quelle mesure sa vision et sa perception de l'écriture chinoise ne sont-elles pas aussi hallucinées ? Si le fantasme asiatique est plus que patent dans l'œuvre de Michaud, il faut reconnaître que l'on observe des similitudes dans les mécanismes de formation morphologique des idéogrammes et des signes inventés. Il existe effectivement des correspondances dans la formation des différents types d'idéogrammes en mandarin et dans l'économie de l'idéogramme imaginaire de Michaud. Roy Harris, dans la sémiologie de l'écriture, rappelle la classification des caractères chinois en catégories en reprenant lui-même la description qu'en donne Shao, un sinologue. Je vais vous mettre la citation parce que ce sera plus clair étant donné qu'il y a quand même des termes chinois et beaucoup d'exemples. La première catégorie comprend des pictographes. Par exemple, le caractère qui signifie « soleil » est représenté en ancien chinois par un cercle avec un point au centre. La deuxième catégorie d'idéogrammes est celle des idéographes simples. Ainsi, le caractère qui signifie « trois » se compose de trois traits horizontaux. La troisième est la catégorie des idéographes composés. En l'occurrence, le caractère qui signifie « lumineux » est un composé qui réunit les deux caractères pour « soleil » et « lune ». La quatrième catégorie renferme les caractères empruntés. Ainsi, pour le mot « venir », on avait emprunté un pictogramme qui représente une espèce de blé, dont le nom par hasard était prononcé de la même façon que le mot « venir ». La cinquième catégorie désigne les composés phonétiques, par exemple, ayant déjà emprunté le caractère « brûlé » pour représenter le mot « ainsi », qui avait une prononciation identique, on avait ajouté le caractère qui signifie feu afin de pouvoir différencier les deux. Le mot brûlé finit par être représenté par la combinaison brûlé plus feu, tandis que le mot ainsi réquisitionne l'ancien caractère brûlé pour éviter la correspondance phonétique. Enfin, la sixième catégorie regroupe les caractères dérivés. Un nouveau caractère est formé au moyen d'une modification graphique accompagnée d'une modification sémantique, comme dans le cas du caractère savouré, formé par l'addition d'un trait supplémentaire au caractère propice. Roy Harris ajoute, je cite, « Sans aller plus loin, on entrevoit tout de suite des possibilités de regroupement entre certaines de ces catégories. » Fin de citation. Effectivement, certains idéogrammes sont formés par composition, associant deux idéogrammes qui eux-mêmes avaient une origine pictographique. C'est le cas du caractère de troisième catégorie dans cette classification de Shao. Pour en revenir à Michaud, j'ai établi moi-même une certaine forme de typologie, bien qu'on verra qu'elle peut être, que ces catégories sont très fluctuantes, en accord avec la pratique de Michaud qui ne permet pas vraiment d'établir une nomenclature fixe, mais en tout cas, on peut quand même dégager des types de ces signes inventés. Je l'ai organisé en trois catégories générales, mais j'ai fait un certain nombre de sous-catégories, je n'ai pas le temps ici de les mentionner, donc je vais m'en tenir aux catégories générales. La première catégorie, c'est celle du pictogramme merveilleux. Ce que j'ai appelé le pictogramme merveilleux, c'est un signe qui est proche du pictogramme, mais avec une dimension plus abstraite, moins réaliste que la pictographie. Pictogramme sans lettre tout à fait. Le pictogramme merveilleux convoque sur la page ceux qui s'apparentent à des animaux, des hommes, et transcendent dans le même geste leur représentation afin de laisser se manifester des créatures chimériques. On ne peut pas identifier en tant que tel exactement un type d'insecte, un type d'animal ou même un homme nécessairement, mais des silhouettes qui sont souvent merveilleuses, chimériques, pas tout à fait fidèles à la réalité. On peut en voir des sortes d'hommes transcendés, transformés, étirés. La seconde catégorie, c'est la catégorie que j'ai nommée le sismographème. Qu'est-ce que c'est que le sismographème? C'est un néologisme que j'ai utilisé, que j'ai formé, en associant sismographique et graphème. Ça désigne des signes graphiques dont le trait est très diagrammatique. Le signe inventé présente un tracé de nature diagrammatique, mais qui a un caractère abstrait. Il n'est pas représentatif d'une donnée chiffrée comme un véritable diagramme, donc ne désigne pas une réalité, ne représente pas une réalité. Autrement dit, c'est un trait qui va retranscrire dans l'esthétique de Michaud, avec la précision d'un diagramme, les mouvements qui traversent l'acte de scription, le geste pictural, mais cette malléabilité de la ligne, cet élan du geste sont aussi pour Michaud des outils sismographiques dans la perspective de saisir la dynamique de l'être, tous les courants qui traversent l'être. Enfin, la dernière catégorie générale est celle de l'idéogramme abstrait. Un idéogramme qui partage certaines caractéristiques avec un réel idéogramme, mais qui ne fait pas signe au sens de signe graphique, de signe linguistique fonctionnel. Donc, c'est pour cela que je vais apposer la qualification d'abstrait. Dans la formation d'idéogrammes abstraits, on retrouve certaines logiques de composition qui permettent de départir les types d'idéogrammes chinois dans la classification de Shao. J'en reviens à la classification des idéogrammes que je mentionnais tout à l'heure. Et on va voir les traits de correspondance entre certains traits morphologiques qui organisent cette classification du sinologue Shao et les traits composant les idéogrammes de Michaud. Ainsi, l'idéogramme imaginaire créé par Michaud procède de la même logique morphologique que celle à l'œuvre dans l'élaboration du caractère Yuyi, qui est la troisième catégorie de Shao. Si l'on observe attentivement les idéogrammes abstraits dans le recueil par des traits, on remarque qu'ils combinent plusieurs signes. Ainsi, quelques pages après le premier intermètre figurent des idéogrammes abstraits formés par deux ou trois sismographèmes. On voit une correspondance entre la nature du trait, de ce que j'ai nommé les sismographèmes, et certains et un trait qui commence à composer plutôt ce qui relève d'idéogrammes. Donc il y a vraiment une fluctuation. Si on observe ces recueils, je ne peux pas tous les reproduire pour vous les montrer, mais il y a vraiment une évolution des formes pictographiques qui glissent vers l'idéographie, puis plutôt vers un trait diagrammatique, sismographique. Et les signes se recomposent en permanence, il n'y en a jamais un qui est identique à l'autre. Et certaines fois, on voit plusieurs de ces formes se composer dans un même signe. Et c'est en ce sens qu'il y a un principe de composition qui peut correspondre au principe de composition qu'ont formé l'écriture chinoise. Mais l'idéogramme abstrait peut aussi être composé selon le schéma de constitution du caractère Juan-Ju, la sixième catégorie, c'est-à-dire par modification graphique d'un caractère en procédant par exemple à l'addition d'un trait. En l'occurrence, Michaud réunit et relie des pictogrammes merveilleux représentant des êtres chimériques. Donc on pourrait voir ici, par exemple dans la figure en haut, des silhouettes. Regardez, si je passe à la diapositive suivante, là ce sont plutôt les pictogrammes merveilleux. Ces petites silhouettes, on en voit certaines qui peuvent être représentées dans ces idéogrammes, mais ils deviennent idéogrammes dès l'instant où il ajoute des traits pour en faire des signes un peu plus complets qui peuvent avoir l'allure d'idéogrammes. Donc en cela, on rejoint la logique de composition morphologique de la sixième catégorie, qu'il s'agit de transformer un idéogramme et d'en faire un autre en ajoutant un trait dans son graphisme. On perçoit au sein de l'idéogramme abstrait les petits personnages reliés par un trait qui les traverse ou par une série de traits qui les confond avec les structures de l'idéogramme dans plusieurs exemples. Précisons cependant que contrairement au caractère Juan-Ju, le signe de Michaud ne peut adjoindre à la modification graphique une modification sémantique. Et là, c'est essentiel. Effectivement, il n'y a pas de signifié associé à un signifiant modèle type. Systématiquement reconnaissable, morphologiquement stable et identifiable. L'absence d'un signifié prive les expériences graphiques de Michaud d'une contrepartie sémantique, à savoir des attendus de sens d'un système d'écriture normal et valide. Le pictogramme merveilleux que Michaud suit également, c'est un pictogramme merveilleux qui a une logique morphologique propre au caractère chinois de la cinquième catégorie. La cinquième catégorie tend à représenter fidèlement les objets. En effet, le pictogramme merveilleux essaie de reproduire, certes de manière métaphorique, la silhouette humaine ou les espèces animales, mais il tente de les reproduire, comme le ferait les idéogrammes de la cinquième catégorie. Dans la même optique, Michaud adopte complètement le caractère Jishi, la deuxième catégorie qui fonctionne par mimésis entre signifié et signifiant. Par exemple, le caractère qui signifie 3 se compose de 3 traits horizontaux. Dans le recueil par la voie des rythmes, les titres des sections sont des traits superposés les uns aux autres. Donc pour la section 1, on aura un trait horizontal, pour la section 2, on en aura 2 et jusqu'à 5. Donc il n'utilise pas les chiffres romains, parce qu'à 5, on a 5 traits. Mais il utilise vraiment cette notation graphique. Et cette notation graphique est complètement correspondante, correspond totalement à la deuxième catégorie de composition dégagée par le sinologue Shao. Si l'idéogramme imaginaire qu'il peint présente de toute évidence des similarités avec l'idéographie dans son processus de formation morphologique, néanmoins il ne peut être pour autant complètement assimilé à un idéogramme. Dans la mesure où ces signes inventés ne sont ni stables, ni schématiques, ils ne peuvent pas être identifiés à de véritables idéogrammes, eux, structurés et catégorisés. Pourtant, il est certain que Michaud manifeste un esprit graphique chinois dans la création de ces signes imaginaires. L'influence idéographique chinoise sur l'idéogramme abstrait est évidente. Mais la filiation n'est pas absolue puisque le signe inventé n'est pas exactement catégorisable ni assignable à un modèle graphique fixe, autonome et opérationnel. Le signe inventé se restreint à son signifiant graphique potentiel. Potentiel car il aurait pu être associé à son signifié si l'on se réfère au projet de langue initial de Michaud. Mais en l'occurrence, il demeure orphelin, orphelin de toute contrepartie phonétique, linguistique et sémantique. La rupture avec l'idéogramme chinois se cristallise dans la non-systématicité du signe imaginaire, ainsi que dans l'absence de dimension logographique de ce dernier. Force est de constater que l'idéographie chinoise est devenue au fil des siècles une logographie, c'est-à-dire que les caractères chinois représentent non pas des idées, mais des mots parlés. Le sinologue Shao évoque la nature logographique des idéogrammes chinois. Je cite. En fait, depuis une époque très reculée, les caractères écrits ont été associés si intimement aux mots de la langue qu'ils ont perdu leur fonction pictographique ou idéographique en tant que telles et sont devenus des représentations visuelles et conventionnelles des mots parlés, c'est-à-dire des logogrammes. Fin de citation. Et dans la mesure où les idéogrammes imaginaires de Michaud ne possèdent pas de contrepartie linguistique et phonétique, ils ne constituent donc pas des logogrammes, c'est-à-dire pas des idéogrammes. La pseudo-idéographie de Michaud ne peut donc pas être apparentée à une langue et à une écriture à part entière, et c'est là où s'évanouissent les reflets idéogrammatiques. Le miroir de l'écriture chinoise se brise, ou à tout le moins est quelque peu fêlé par l'idéographie sauvage à laquelle se livre Michaud, qui se présente comme un point de fuite à la taxonomie des écritures. Qualifier le pictogramme de Michaud de merveilleux, son idéogramme d'abstrait ou d'imaginaire, manifeste la singularité du signe qu'il invente et permet de respecter l'esprit sémiotique transgressif et interstitiel à l'œuvre. Cet alter ego idéographique, cette graphie qui remue, naît autant d'une utopie du signe que d'un fantasme asiatique et s'élabore de manière spéculaire en miroir de l'écriture chinoise. Merci. Merci.